En levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Alexandre Dumas, fille, lorettes et courtisanes. Deuxième partie, Lorette. Quand le grand-duc Ferdinand rentra en 1814 à Florence, d'où il était exilé depuis 10 ans, et qu'il vit les changements que nous avions faits dans le chef-lieu de la préfecture de l'Arnaud, il s'écria, plein d'admiration pour nous, « Mon Dieu, quel malheur que ces diables de Français ne soient pas restés 10 ans de plus dans ma capitale !» En effet, en moins de 10 ans, Florence avait subi une transformation complète. Il en est de même de Paris. Un Parisien qui l'aurait quitté il y a 20 ans et qui y rentrerait aujourd'hui ne reconnaîtrait plus sa ville natale. Or, parmi tous ces quartiers qui se sont élevés à l'envi l'un de l'autre, il y a un quartier qui semble bâti par la baguette d'une fée. C'est le quartier Notre-Dame de Lorette. Il est vrai que la forme des bâtisses ajoute encore au fantastique de la chose. Comme pour répondre au défi de Victor Hugo, les architectes se sont mis à l'œuvre et chacun a été trouvé son entrepreneur avec des plans de maisons italiennes, espagnoles, grecques. On eût dit qu'on avait tout à coup retrouvé et rouvert les cartons de Jean Goujon, de Raphaël et de Palladio. Les entrepreneurs, émerveillés de tous ces dessins qui ne pouvaient manquer de séduire la fashionable badauderie des Parisiens, se sont mises à l'œuvre, et les maisons sont sorties de terre à vue, comme les décorations de l'opéra qui les regardaient étonnées de se voir surpasser en vitesse. En effet, ce quartier improvisé se peupla avec cette miraculeuse rapidité qui restera toujours un problème, non pas de grands seigneurs, de riches capitalistes ou de grands propriétaires, comme l'avaient pensé les entrepreneurs, mais d'artistes, de gens de lettres, de peintres, de statuaires, de chanteurs, de comédiens, de danseurs, de danseuses, et surtout d'une nouvelle race toute fraîche éclose au milieu de la population parisienne et qui resta quelque temps sans nom. Cette race appartenait entièrement au sexe féminin. Elle se composait de charmants petits êtres propres, élégants, coquets, qu'on ne pouvait classer dans aucun des genres connus. Ce n'était ni le genre fille, ni le genre grisette, ni le genre courtisane. Ce n'était pas non plus le genre bourgeois. C'était encore moins le genre femme honnête. Bref, ces jolis petits êtres, sylphes, lutins ou démons, bourdonnaient donc depuis 2 ou 3 ans déjà autour de cette mondaine église qu'on venait d'élever plutôt comme un boudoir à notre Seigneur que comme un temple à Dieu, pareils à des papillons voltigeant autour d'une lumière, à des abeilles autour d'une ruche, à des colibris autour d'une cage, sans qu'aucun savant, sans qu'aucun académicien, sans qu'aucun philosophe, sans que Cuvier, sans que Humboldt, sans que Geoffroy Saint-Hilaire fussent encore parvenus à les classer ou à leur trouver un nom en harmonie avec leur tournure. Un de ces noms qui vont à la chose qu'ils désignent, comme l'hermine va à la blanche jeunette de Bretagne, comme l'oiseau de paradis va au roi emplumé de l'air, comme la luciole va à la mouche volante qui, à chaque mouvement de son aile, fait jaillir une étincelle au milieu des nuits embaumées de Nice et des transparentes ténèbres de Naples et de Palerme. Mais voilà qu'un de nos hommes d'esprit, un de nos hommes élégants, un de nos hommes de lettres, habitué à étudier sous toutes ses faces le sujet qui préoccupait alors la société, M. Nestor Roqueplan enfin, fit ce que n'avaient pu faire ni Geoffroy Saint-Hilaire, ni Humboldt, ni Cuvier, ni les philosophes, ni les académiciens, ni les savants, et dans le numéro des Nouvelles à la main du 20 janvier 1841, reconnut que c'était un genre absolument nouveau, une variété de l'espèce femme, un produit de la civilisation contemporaine n'ayant aucun précédent parmi les sociétés passées, et qui devait prendre sa place dans une des cases de la population parisienne sous le nom de Lorette. Le nom était joli, et c'est beaucoup en France qu'un joli nom. Puis il avait le mérite de peindre parfaitement l'objet qu'il représentait. Aussi fut-il adopté à l'instant même. Mais ce qui le répandit surtout, ce fut le ravage que celles qui le portaient firent bientôt dans la société. Rien ne popularise comme le mal. Y a-t-il un homme, si ignorant qu'il soit, qui ne sache ce que c'est que la peste ou le choléra, que Tibère et que Néron? En effet, art et finance, bourgeoisie parvenue et aristocratie ruinée, fils de banquier, fils de famille, fils de prince, fils de roi, tout se jeta dans la lorette. De tous côtés, on entendait un concert de plaintes et de récriminations. Plaintes d'oncles, plaintes de pères, plaintes de mères, récriminations de fiancés à qui on avait enlevé leur fiancé, de femmes à qui on avait enlevé leur mari, de maîtresses à qui on avait enlevé leurs amants. Enfin, la lorette, qui n'avait été jusque-là qu'un objet de curiosité, devint presque un objet de terreur. Dès lors, on examina la lorette sous ses rapports sociaux, politiques et intellectuels. On voulut la connaître pour la combattre, l'étudier pour se défendre. On se livra à son endroit à des études physiologiques profondes. Et voici ce que l'on reconnut. La lorette a une origine fantastique. Si on l'interroge sur ses parents, c'est la fille de quelque colonel de l'Empire, de quelque capitaliste ruiné, de quelque émigré mort sans avoir touché son indemnité. Elle porte des noms analogues à son origine, s'appelle Marie de la Tour, et alors elle descend de la famille de Virginie, elle s'appelle Rose Duplessis, et alors elle est parente des Mornay, elle s'appelle Élisa de Montmorency, et alors elle est alliée au premier baron Chrétien. Puis, si l'on ne se contente pas de cette généalogie quelque peu superficielle, et en général on s'en contente si la lorette est jolie, et que par curiosité, par entêtement ou par amour de la science, on remonte de l'appariement à la chambre garnie, de la chambre garnie au cabinet meublé, on découvrira que la lorette sort presque toujours de quelque loge de portier, et que son père, comme le savetier du Jules César de Shakespeare, est chirurgien en vieilles chaussures. Quant à cela, qu'importe? Le Trilby, le charmant lutin de Nodier, avec sa petite voix si douce, son corps si transparent, ses ailes si légères et si diaprées. Trilby lui-même, n'est-il pas sorti de l'âtre d'un pauvre paysan écossais? Cette origine poétisée, autant qu'il a été en nous de le faire, disons donc qu'à quelques exceptions près, c'est de la loge du portier que sortent tous nos Trilby parisiens. Comment de pareils êtres, me dira-t-on en voyant le père et la mère, ont-ils pu produire une si souple, une si gracieuse, une si séduisante créature? Dame, la portière n'a pas toujours été vieille, ridée, impotente. Elle a été vive, pimpante et jeune. Alors, elle montait lestement ses 4 étages. Elle avait ses 15 francs par mois pour faire le ménage du locataire du 3e, 10 francs pour celui du 4e, 5 francs pour celui de la mansarde. Au 3e était un jeune officier de la garde royale, appartenant à quelque vieille famille de cette belle aristocratie qui s'en va. Au 4e, un jeune avocat, appartenant à cette pauvre bourgeoisie qui commence. Au 5e, un jeune peintre, qui n'appartenant à rien du tout, qui, n'ayant jamais dans les registres du passé pu parvenir à savoir comment il s'appelait, avait résolu dans les archives de l'avenir de s'appeler Raphaël. La jeune, pimpante et vive portière entrait donc à toute heure dans l'appartement, dans le salon et même dans la chambre à coucher de ses clients. Ses clients faisaient de beaux rêves dans lesquels ils étendaient les bras vers quelques femmes. Elle les réveillait au milieu de ses rêves, et quand on n'est pas encore bien réveillé, j'en demande pardon à nos Ève de velours, de satin et de soie, une portière vive, pimpante et jeune ressemble à s'y tromper à une femme. De là la lorette, peut-être. Mais comme on le comprend bien, ce n'est qu'une supposition, une théorie, un système. Je ne voudrais pas avancer un fait si grave, sans preuve, et j'avoue que j'en manque entièrement. Bref, la lorette est... Ne cherchons pas son origine. Si son origine est destinée à rester plongée dans les ténèbres du doute ou dans les mystères de l'inconnu. Et tout en admirant la féconde prodigalité du Seigneur, qui, lorsque nous avions déjà les fleurs, les papillons, les colibris, les sylphes, les lutins, les grisettes, les élèves du conservatoire, les demoiselles des variétés et les filles de l'opéra, nous donne encore les lorettes, disons, dans notre reconnaissance, la lorette est parce qu'elle est. Maintenant, quelle est l'éducation qu'a reçue la lorette? Oh, quant à cela, nous sommes forcés de l'avouer, la lorette n'a reçu aucune éducation. Cependant, ses parents lui ont fait apprendre à lire. Mais elle a appris à écrire elle-même, et cela se voit facilement. Comment et pourquoi la lorette a-t-elle appris à écrire? par nécessité. Il fallait écrire à sa couturière, à sa modiste, à son tapissier. Il fallait surtout répondre à ses Arthur. C'est encore à M. Nestor Roqueplan que nous devons cette heureuse classification d'une nouvelle espèce destinée à faire le pendant de la Lorette. Toute race animale a dans ce monde son masculin et son féminin. L'amour étant une loi de la création, la reproduction une nécessité de la nature. L'Arthur est donc l'amant de la Lorette. Mais, me dira-t-on, qu'est-ce que l'Arthur ? Pour être juste, et pour rendre à César ce qui appartient à César, je devrais renvoyer mes lecteurs à ce même numéro du 20 janvier 1841 que j'ai déjà cité. Mais comme ce serait un retard pour mes lecteurs, et que je suis trop adroit et trop dramatique surtout pour suspendre l'intérêt à cet endroit important du récit où je suis arrivé, je dirai moi-même ce que c'est que l'Arthur. L'Arthur est de l'espèce bipède, ce que Diogène appelait un animal à deux pieds et sans plumes, genus homo. Seulement, l'Arthur ne s'appelle Arthur que de 18 à 30 ans. Jusqu'à 18 ans, il s'appelle de son nom de baptême. Pierre, Paul, François, Philippe, Emmanuel, Justin, Adolphe, Horace ou Félicien. Passé 30 ans, il s'appelle de son nom de famille. Monsieur Durand, Monsieur Berton, Monsieur Legrand, Monsieur Lenoir, Monsieur de Preuilly, Monsieur de Laguerche, Monsieur de Barou ou Monsieur de Chemillé. Mais pendant 12 ans, il s'appelle invariablement Arthur. L'Arthur est multiple. Il se présente sous toutes les formes. Il est artiste, il est homme de lettres, il est spéculateur, il est fils de famille. Il a depuis 100 000 francs de dette jusqu'à 25 000 francs de rente. Seulement, il est fort rare qu'il passe de 100 000 francs de dette à 25 000 francs de rente, tandis qu'il est fort commun qu'il passe de 25 000 francs de rente à 100 000 francs de dette, et même davantage. L'Arthur n'est donc pas assez riche, dans notre époque de misère constitutionnelle, pour entretenir à lui seul une Lorette à la mode. Mais comme les malheureuses filles du boulevard se mettent à deux, à quatre, et même à six pour entretenir un amant, les Arthurs se mettent à six, à huit, à dix, et même à douze pour entretenir une Lorette. L'un fournit les gants, l'autre les chapeaux, celui-ci les étoffes, celui-là les façons. Un Arthur meuble la salle à manger, un autre Arthur le salon, un autre le boudoir, un autre la chambre à coucher. Le dernier venu parsème les tables, les cheminées et les étagères de vieux sèvres et de chinoiseries, et la Lorette est ce qu'on appelle chez elle. Cette multiplication des Arthurs est une grande sécurité pour la Lorette. On ne se brouille pas d'un seul coup avec 12 amants comme on se brouille avec un seul. On se brouille avec un, avec deux ou avec trois même, mais cela ne fait qu'une baisse dans la recette, voilà tout. Une gêne et non pas une ruine. D'ailleurs, la Lorette n'a pas assez d'amour dans le cœur pour un seul amant, tandis que pour 12. Elle en a tout ce qu'il en faut, elle en a même de reste. Or, maintenant qu'on sait ce que c'est que l'Arthur, revenons au point où nous avons laissé la Lorette, c'est-à-dire à son talent calligraphique plus ou moins développé. La Lorette possède ou le dictionnaire de l'Académie ou le dictionnaire de Boist, ou le dictionnaire de Napoléon Landais. Elle cherche à peu près chaque mot qu'elle écrit, ce qui fait qu'elle met 2 heures pour écrire une épître de 4 lignes. Encore, les dernières lettres de ces pluriels sont-elles presque toujours illisibles, et y a-t-il en général un pâté plus ou moins gros sur chacun de ses participes? Quant aux noms de baptême, elle les prend dans l'almanach, attendu qu'ils ne se trouvent pas dans les dictionnaires. L'absence de ce dernier guide expose souvent la Lorette à faire des fautes d'orthographe dans son propre nom. Un de mes amis a reçu le lendemain d'une rencontre au bal de l'opéra une lettre émanée d'un domino qui l'avait intrigué la veille avec un esprit remarquable. Cette lettre était signée Sophie. Seulement, il n'y avait pas dans le nom baptismal qui servait de saint à l'épître une seule des lettres qui aurait dû le composer. En l'absence de l'almanach renseignateur, la jolie et spirituelle auteure de l'épître avait signé Sophie de la manière suivante, CCDI majuscule, AUFY. Nous avons parlé de la Lorette élégante, de la Lorette dans le bonheur, de la Lorette chez elle enfin, mais il y a Lorette et Lorette comme il y a Fagot et Fagot. Non seulement la Lorette n'est pas toujours fortunée, mais même la Lorette la plus fortunée a des hauts et des bas. Examinons-la dans les variations de sa fortune. La Lorette a ses marchands attitrés, ses fournisseurs spéciaux, ses ouvriers excentriques. Ce sont eux qui lui confectionnent ses chapeaux à la lionne, qui laissent voir le chignon et desquels s'échappe ce joli nœud de ruban qui flotte coquettement jusqu'au bas de son dos. Ce sont eux qui lui fournissent ces crispins de velours ou de satin qui tombent si carrément jusqu'aux genoux et qui sont si coquettement garnis de franges. Enfin, ce sont eux qui lui livrent les manchons qui imitent si admirablement l'hermine, la martre et le renard bleu qu'il faut l'œil d'une femme jalouse pour reconnaître la contrefaçon. Mais il vient de ces moments terribles où le crédit s'épuise. Une baisse dans les artures amène une suspension dans la confiance. Il arrive alors parfois que la marchande de mode, la couturière et le fourreur refusent à la fois les uns les chapeaux, les autres les crispins, les autres les manchons. Alors il reste une ressource à la Lorette. Cette ressource, c'est le coiffeur. Le coiffeur est le banquier de la Lorette. Le coiffeur fournit à la Lorette des chapeaux, des crispins et des manchons à crédit. Il est vrai qu'il les lui fait payer le double de ce que les lui font payer les fournisseurs ordinaires, qui les lui font payer déjà le double de ce qu'ils valent. Quant à l'argent dont elle a besoin pour les dépenses de poche, il le lui prête sur gage. Rien de mieux coiffé que les Lorettes qui doivent 1000 écus à leur coiffeur, si ce n'est les Lorettes qui lui doivent 4000 francs. On le comprend, l'honnête industriel travaille comme pour lui et tient à rentrer le plus tôt possible dans ses fonds. Il y a 2 ou 3 coiffeurs dans le quartier Notre-Dame de Lorette. Dans 10 ans, ils se retireront chacun avec 50 000 francs de rente. Aussi, en général, les dames qui se servent des mêmes artistes savent-elles tous les petits secrets les unes des autres. Un de mes amis, placé à une avant-scène de droite, avait remarqué de l'autre côté de la salle, c'est-à-dire à une avant-scène de gauche, une Lorette qui paraissait avoir d'admirables cheveux. « Quelle est cette dame ?» demanda mon ami en se baissant à l'oreille d'une autre Lorette, qui était dans la même loge que lui et qui l'honorait de ses bontés. « Ce sont de fausses touffes, » répondit celle-ci, avec un laconisme tout lacédémonien. Il est évident que ces deux dames avaient le même coiffeur. Mais l'existence de la Lorette n'est pas tout entière dans son manchon, dans son crispin et dans son chapeau. Elle a des besoins plus matériels, elle a des nécessités moins poétiques. Il faut qu'elle mange. Dieu qui donne la pâture aux petits des oiseaux ne donne rien du tout à la Lorette. Or, nous le répétons, il faut que la Lorette mange. C'est un besoin de son organisation. La Lorette mange même beaucoup. La Lorette, disons plus, est essentiellement gourmande. Quand la Lorette est dans le bonheur, il n'y a rien d'assez bon, d'assez fin, d'assez cher pour elle. D'ailleurs, en général, ce sont les Arthurs qui vérifient l'addition. Mais quand la Lorette est à la baisse, elle a les vertus de ses revers, c'est-à-dire que la Lorette se restreint à un point qui ne lui laisse pour compagnon de sobriété que l'estimable animal qu'un de nos grands poètes a surnommé le navire du désert. D'abord, la Lorette se restreint à la table d'hôte. Il y a rue Bréda chez Mademoiselle Estelle une table d'hôte consacrée exclusivement aux Lorettes. On paye 3 francs, on y prend un petit verre au choix avant le dîner et l'on y joue au loto après. Quand la Lorette ne peut plus même payer la table d'hôte, la Lorette se restreint au pâté de viande. Il y a dans la rue Lafitte un pâtissier qui fait sa fortune en vendant des pâtés de 20 sous aux Lorettes qui n'ont pas trouvé à dîner. Enfin, quand la Lorette n'a pas même 20 sous pour acheter son pâté, ce qui arrive quelquefois, elle envoie la femme de chambre chercher, comme pour elle, 4 œufs chez sa fruitière. Il est rare que cette ressource lui manque, et cependant, elle lui manque quelquefois. Alors la Lorette en vient aux expédients, ni plus ni moins qu'un étudiant à qui son père a coupé les vivres. Voici ce qui est arrivé dernièrement à un restaurateur de la rue de Bréda. 2 Lorettes, descendues de la maison dorée à la table d'hôte, de la table d'hôte au petit pâté à 20 sous de la rue Lafitte, et du petit pâté à 20 sous de la rue Lafitte aux 4 œufs de la fruitière, éprouvaient le besoin d'un dîner plus succulent. Elles se présentent chez le restaurateur et font une carte montant à 22 francs. « Vous savez, dit le restaurateur, que je ne livre qu'au comptant. »« C'est bien, dirent les Lorettes. Faites monter cela rue de Navarin, numéro 12, et l'on paiera au garçon. » Les 2 Lorettes sortent majestueusement et le restaurateur fait descendre la carte au chef. Une demi-heure après, le garçon se présente. dépose les plats sur la table et demande son dû. « Et l'omelette au rhum ?» dit une des lorettes. « Ah oui, et l'omelette au rhum ?» dit l'autre. « Comment l'omelette au rhum ?» dit le garçon. « Sans doute l'omelette au rhum. Savez-vous lire ?»« Non. Eh bien, voyez, il y a là « omelette au rhum pour deux ».« Ah !» dit le garçon. « Le chef l'aura oublié. Allez la chercher alors, il y aura 20 sous pour la peine. » Le garçon, pour aller plus vite, laisse le dîner, descend les escaliers 4 à 4 et rentre tout essoufflé chez son maître. « Et l'omelette au rhum ?» dit-il. « Et les 22 francs ?» répond le maître. « Elles vont me les donner quand je leur reporterai l'omelette au rhum. »« Misérable !» s'écrie le restaurateur. Et il s'élance lui-même à la recherche de son dîner. Mais comme lit le Julia de volcanique mémoire, le dîner avait déjà disparu. Le restaurateur chassa le garçon et assigna les lorettes chez le juge de paix. Sur 10 causes qui se présentent devant le magistrat irréprochable chargé, comme l'indique son nom, de maintenir la paix dans le quartier Bréda, il y en a toujours 8 où les lorettes sont défendresses. Mais il faut le dire à la louange de M. Léra de Magnito, tout en tenant d'une main ferme et surtout égale la balance de la justice, il assure les droits des créanciers sans trop grever l'existence des débitrices. En général, la lorette est condamnée à rembourser 5 francs par mois, ce qui, comme on le voit, lui donne de grandes facilités, et cependant, vu le nombre des remboursements, ne laisse pas que de grever sa pauvre petite existence. C'est sans doute à ce chiffre que furent condamnées les 2 jolies gourmandes dont nous avons raconté l'histoire. Le nom de la lorette est déjà répandu en province, quoique l'individu y soit encore inconnu. Espérons que grâce aux bateaux à vapeur, au chemin de fer, à la civilisation toujours grandissante, la province jouira bientôt des mêmes avantages que la capitale. Or, un provincial, arrivé de la veille, et qui avait fort entendu parler dans son endroit de ce petit animal nommé Lorette, demanda pour premier service à l'un de ses amis de le mettre en rapport avec l'espèce. La chose était d'autant plus facile que l'ami était un Arthur. L'Arthur lui répondit que la chose était parfaitement faisable et qu'il le conduirait le lendemain à la table d'hôte de la rue de Bréda. Mais le nouveau venu était si pressé qu'il insista pour jouir de ce bonheur le jour même. Malheureusement, l'Arthur dînait en ville ce jour-là. Dîner de grands-parents, dîner auquel il lui était parfaitement impossible de ne pas assister. Mais comme il était un des habitués les plus assidus de la table d'hôte de la rue de Bréda, il remplaça la présentation verbale par une recommandation écrite. Il donna à son ami une lettre pour Mademoiselle Estelle, priant Mademoiselle Estelle de regarder son recommandé comme un autre lui-même. Mademoiselle Estelle plaça l'ami de son ami près de la plus jolie habituée de son établissement. L'ami regarda fort sa voisine pendant la première partie du dîner, s'occupa beaucoup d'elle pendant la seconde. Enfin, pendant la troisième, passa à la galanterie la plus extrême, racontant comment, à son avis, l'établissement de Mademoiselle Estelle était une des plus charmantes choses qu'il eût vues depuis son arrivée, quoiqu'il eût vu le musée, le cabinet d'histoire naturelle et le palais des singes. Cependant, au milieu de toutes ces merveilles du passé sacrifiées aux merveilles du présent, la jolie voisine du provincial remarqua que la chose qui l'avait le plus impressionné était les espiègleries et les gentillesses de la junte simiane. « Monsieur aime donc les singes ?» demanda la lorette. « Je les adore, » répondit le provincial. « C'est le seul animal auquel la civilisation laisse un peu d'inattendu. »«
Oh, comme cela tombe !» s'écria la lorette. « J'ai justement, à cette heure, mis mon singe en loterie. Et puisque monsieur paraît attacher quelque prix à la possession d'un animal de cette race,
et celui-là, surtout, mademoiselle, aurait un double prix pour moi, puisqu'il vous aurait appartenu.
En ce cas, monsieur, j'espère que vous voudrez bien me prendre quelques billets.
Certainement, répondit le provincial, avec le plus grand plaisir. Veuillez me dire à quel prix sont ces billets et...
Oh, monsieur, si vous connaissiez l'animal dont il est question, vous verriez que c'est pour rien. C'est un singe, de l'espèce de ceux que monsieur de Buffon appelle bonnet chinois, c'est-à-dire de l'espèce la plus intelligente. Puis, outre ses dons naturels,
il a des qualités acquises. Il monte la garde, comme un chasseur de la banlieue. Fait des armes, comme un élève de Grisier. Bat du triangle, balaye la maison, reconnaît le plus amoureux de la société, et joue au domino. Vraiment ? S'écria le provincial. L'année passée, j'en ai refusé 500 francs à l'homme au caniche. Et qui vous force donc à vous défaire d'un animal si intéressant ? Ah, voilà ! Il brise toutes mes chinoiseries, vous comprenez, cet animal, on ne peut pas lui faire comprendre le prix de ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de magot chez soi, c'est un trésor. Eh bien, mademoiselle, dit le provincial, je serais enchanté de devenir possesseur de ce trésor. Et je vous le répète, si vous voulez me dire à quel prix sont vos billets... Oh, monsieur, pour rien, à 20 francs, il m'en reste encore 5. Et je puis vous les offrir. Me sera-t-il permis, répondit le provincial en baissant la voix, d'aller m'informer si j'ai gagné? Comment donc, monsieur? Je serais heureuse de vous recevoir. À quelle heure? Mais toujours, surtout de midi à 5 heures. Je suis fort sédentaire. Et vous demeurez, mademoiselle? Rue Bourdaloue, numéro 7. Au 4e au-dessus de l'entresol. S'il n'était pas trop indiscret de vous demander votre nom. Caroline. Vous demanderez mademoiselle Caroline, cela suffira. Mademoiselle, voici vos 5 louis. Monsieur, voici vos 5 numéros. Muni de l'adresse de la Lorette et de la permission de se présenter chez elle, notre provincial ne jugea pas à propos de pousser le premier jour la chose plus loin. Et rentra à son hôtel, fort satisfait de sa journée. Le lendemain, il courut chez son ami. « Mon cher Victor, lui dit-il, pour son ami Victor avait continué de s'appeler Victor. Mon cher ami, lui dit-il, je te remercie, mais bien réellement. Tu m'as procuré hier un dîner fort agréable, sans compter la chance que je te dois de devenir propriétaire d'un animal que j'ai toujours désiré posséder. Et de quel animal ? D'un singe. Comment d'un singe? Oui, tu sais que j'ai un faible pour les singes. Et tu en as acheté un? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas encore le bonheur de l'avoir en ma possession. Mais il y en avait un magnifique en loterie et j'ai pris 5 billets.
À combien?
À 1 louis le billet. À mademoiselle Caroline.
Caroline? Qui demeure?
Rue Bourdaloue, numéro 7.
Tiens, je ne lui connaissais pas de singe.
Et un singe un peu soigné. Es-tu sûr que ce n'est pas son amant qu'elle a mis en loterie?
Alors donc,
au fait, c'est possible, murmura Victor. Sans compter qu'elle m'a donné son adresse et qu'elle m'a permis d'aller m'informer en personne si j'avais gagné.
Eh bien, va, va, mon ami, va. Elle est gentille. Et si tu ne gagnes pas le singe, eh bien, elle a 1000 moyens de te dédommager. C'est une fort bonne fille.
J'irai, mon ami, j'irai.
Et notre provincial rentra chez lui enchanté. À 4 heures, il se présenta chez mademoiselle Caroline. Mademoiselle Caroline était chez elle.
Ah, mon Dieu, lui dit-elle, vous venez pour voir votre singe.
Je dis votre singe parce que les numéros que vous avez pris... sont excellents, et qu'il ne peut manquer d'être à vous, mais vous jouez de malheur.
Il est allé jouer avec un singe de ses amis qui demeure rue de Bréda, et pour lequel il a une extrême affection. Je vous conseille, quand vous l'aurez, de l'y envoyer de temps en temps, pour qu'il s'en déshabitue petit à petit. C'est un animal fort attaché, et qui, si on le privait de ses habitudes, pourrait tomber dans la mélancolie.
Le visiteur fut enchanté d'apprendre que son futur singe, outre les dons de l'esprit et les merveilles de l'éducation qu'il lui connaissait déjà, avait encore les qualités du cœur. Pourtant, il assura mademoiselle Caroline que ce n'était pas pour le singe, mais bien pour elle qu'il était venu. Mademoiselle Caroline reçut ce compliment comme il méritait d'être reçu. Elle fut charmante, mais quand sonna la demie,
« Pardon, monsieur, dit-elle, mais je dois dîner aujourd'hui avec le duc de C. » Et il faut, avec votre permission, que je fasse quelques toilettes.
Notre provincial avait la bouche ouverte pour dire à Mademoiselle Caroline qu'elle pouvait faire sa toilette devant lui et que cela ne le gênerait aucunement. Mais il craignit de paraître trop à son aise pendant une première visite. Il se leva donc, prit son chapeau et demanda la permission de revenir. « Comment donc ? » s'écria Mademoiselle Caroline. « Quand vous voudrez ?»« Alors, demain, mademoiselle. »«
Demain, monsieur. »
Mademoiselle Caroline fit une charmante petite révérence, et le visiteur se retira. Le même jour, il dînait avec son ami.
« Eh bien ?»
lui demanda celui-ci en l'apercevant.
« Quoi ?
As-tu été faire une visite à Caroline ?»«
Oui. »
« Et as-tu vu ton singe ?»«
Non, il était allé jouer avec un singe de ses amis qui demeure rue de Bréda. »
Victor sourit imperceptiblement, et la conversation en resta là. Le lendemain, notre provincial se présenta de nouveau chez Mademoiselle Caroline, qui le reçut avec le même air charmant. La conversation roula sur les spectacles, sur les Champs-Élysées et sur l'hippodrome. « À propos, » dit le visiteur, « et votre singe ?»«
Ah, vous pouvez dire notre singe ?»«
Eh bien oui, notre singe. » S'est-il amusé hier ?
Si fort amusé qu'il est tout souffrant aujourd'hui, et que la bonne vient de le conduire chez son médecin.
Vous ne l'avez pas rencontré sur l'escalier ?
Non.
Ah, c'est étonnant. Mais l'indisposition n'a rien de sérieux.
Je l'espère.
La conversation passa à un autre sujet. 4h30 sonnèrent.
Pardon, monsieur, dit Mademoiselle Caroline, mais je dîne aujourd'hui avec monsieur le comte de B, et il faut que je m'habille.
Le provincial lâcha le mot qu'il n'avait pas osé dire la veille, mais Mademoiselle Caroline prit un de ses airs de grande dame qu'elle savait si bien prendre, pinça ses lèvres de son sourire le plus dédaigneux, et fit une révérence si miraculeusement aristocratique que le visiteur ne répondit que par un profond salut et se retira.
Le lendemain, il se présenta de nouveau. Mademoiselle Caroline n'était pas visible. Il revint le lendemain, sans être plus heureux. Le surlendemain, idem.
« Mon cher ami, dit-il au portier en descendant, je ne puis pas voir Mademoiselle Caroline. C'est très bien, elle est maîtresse d'ouvrir ou de fermer sa porte, je n'en disconviens pas, mais je voudrais savoir si la loterie est tirée. »
« Vous savez bien, monsieur, qu'il n'y a plus de loterie, » dit le portier, en haussant ses lunettes sur son front, et en regardant le questionneur en homme qui se prémunit d'avance contre une mystification.
« Comment ? Il n'y a plus de loterie ?
Un an ? Que même je nourrissais un ambe et ma pauvre défunte interne, et que ce gueux de gouvernement a fermé la loterie comme nos numéros allaient sortir ?»
« Mon ami, je ne parle pas de la loterie royale. Je parle de la loterie de Mademoiselle Caroline.
»« Mademoiselle Caroline a une loterie ?» demanda le portier.
« Et sans doute qu'elle a une loterie. »«
Quelle loterie ?»«
Une loterie où l'on gagne son singe. »«
Mademoiselle Caroline a un singe ?»«
Pardieu, un singe charmant ! » Un singe qui monte la garde, qui fait des armes, qui bat du triangle, qui reconnaît le plus amoureux de la société et qui joue au domino.
Oh, monsieur se trompe certainement. Je ne connais pas de singe à Mademoiselle Caroline, à moins que monsieur ne veuille parler d'un petit peintre qui vient la voir quelquefois et qui a une grande barbe.
Mais non, mon ami, je vous parle d'un singe, d'un bonnet chinois.
« Ah, qui est dans la musique de la garde nationale ?
C'est le locataire du second, alors.
Je vous parle d'un singe, d'un animal, que Mademoiselle Caroline a mis en loterie, parce qu'il cassait toutes ses chinoiseries.
Je ne connais aucun singe à Mademoiselle Caroline.
Elle en a cependant un, et la preuve, c'est que voilà les 5 billets de loterie que je lui ai pris, et que j'ai, pardieu, bien payé 100 francs. »
Le portier prit les 5 billets. Sur chacun desquels il y avait « Bon pour un singe âgé de 4 ans, répondant au nom de Jacques. »
Il les tourna et les retourna, puis il les rendit au provincial.
« Eh bien, demanda celui-ci, « Eh bien, monsieur, il est possible que mademoiselle Caroline est un singe. Mais ce que je sais, c'est que, quant à moi, je n'ai pas l'honneur de le connaître. »
Notre provincial se retira et courut chez son ami.
« Mon cher, lui dit-il, je crois que je suis volé. »«
Comment cela, volé ?»«
À l'endroit de mon singe. »« Ma foi, mon cher, veux-tu que je te l'avoue, j'en ai peur. »«
Ah, s'il en est ainsi, que mademoiselle Caroline y prenne garde. »
« Mon cher ami, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas faire de bruit. »«
Laisse donc, on se moquerait un peu trop de moi, par exemple.
»« On s'en moquera bien davantage si tu cries. »«
Et si je veux crier, moi ?»«
Crie, je ne t'en empêche pas, mais rappelle-toi ce que je te dis, tu en seras le mauvais marchand. »«
Je sais ce que j'ai à faire. »«
Fais, mon ami, fais !»
Notre provincial se présenta une dernière fois rue Bourdaloue numéro 7. Mademoiselle Caroline était toujours invisible. Il eut l'idée de retourner dîner chez mademoiselle Estelle, où il fut fort bien reçu par la maîtresse de la maison, mais où il lui sembla que sa présence était accueillie par un malin sourire et par quelques coups d'œil significatifs qu'échangèrent entre elles les jolies convives. Une jolie lorette se pencha à l'oreille de mademoiselle Estelle et lui demanda quel était ce monsieur dont la société saluait la présence par une expression d'hilarité si prononcée.
« C'est le jeune homme au singe !» répondit mademoiselle Estelle en ménageant si mal l'intonation de sa voix que le convive le plus intéressé à ne pas entendre cette réponse n'en perdit pas un mot.
Le provincial se leva furieux. Il n'y avait pas de doute, il avait été joué.
Un Parisien, un homme du monde, un homme d'esprit, sans se retirer par un joli mot.
Notre provincial n'était rien de tout cela. Il résolut de faire une scène à mademoiselle Caroline.
Il alla s'embusquer au coin de l'église Notre-Dame de Lorette et attendit que mademoiselle Caroline sortît seule.
Il attendit ainsi 3 jours, ce qui l'exaspéra au plus haut degré. De sorte que, lorsque mademoiselle Caroline sortit, le 4e, il était parfaitement hors de lui, ce qui fit qu'il ne mesura ni ses paroles ni ses gestes, de sorte qu'il y eut à la fois injure et voie de fait. Mademoiselle Caroline assigna le coupable devant le tribunal compétent. Le provincial fut condamné à 3 mois de prison et à 500 francs de dommages et intérêts, ce qui fit avec les 5 louis de ses billets 600 francs de recettes à mademoiselle Caroline. Et tout cela pour un singe qu'elle n'avait jamais eu. Revenons au fournisseur. Si le fournisseur est dur, inexorable, avare, intraitable envers la lorette dans la peine, il devient, il est juste de le dire, pliant comme le roseau, souple comme l'osier, rampant comme le lézard envers la lorette heureuse. À peine voit-il poindre à l'horizon de la rue Lafitte les crispins de velours, la pèlerine d'hermine et le bibi excentrique dans leur fraîcheur primitive, qu'il devine qu'il s'est fait un changement dans la position de sa cliente. Aussitôt, il reparaît sur le carré, la figure souriante, sonne aussi modestement qu'il sonnait fort, et en échange du châle de Mérinos, qu'il a souvent insolemment arraché de dessus ses épaules, il vient humblement lui offrir le cachemire de l'Inde. Alors, la lorette triomphe, elle pardonne, oublie, et paie pour achever de rétablir son crédit. Telle est la vie de la lorette pendant 9 mois de l'année. Puis il arrive un moment où, comme les chevreuils au mois de mai, la lorette devient folle. Ce changement se manifeste en général chez elle au commencement du mois de décembre de chaque année. On devine qu'il est pour la lorette question de l'approche du carnaval. En effet, l'époque du carnaval, c'est le règne de la lorette. Tous les calculs de l'année tendent pour la lorette à se procurer un carnaval insensé, fiévreux, vitriolique. La lorette regrette le carnaval passé pendant 5 mois. Elle attend le carnaval à venir pendant 5 autres mois, puis pendant 2 mois, elle n'attend plus rien, ne regrette plus rien, elle ne s'occupe que du présent. Il n'y a pas eu de passé, il n'y aura pas d'avenir. Détailler la vie de la lorette pendant ces 2 mois de cataclysme universel serait chose parfaitement impossible. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. La division ordinaire du temps a cessé d'exister. Le sommeil est retranché de l'existence. On boit, on mange, on danse, voilà tout. On court
du bal de l'opéra au bal de l'opéra comique, on bondit du bal de l'opéra comique au bal des variétés, on saute du bal des variétés au bal Saint-Georges, on descend du cabriolet à gros numéros pour monter dans le cabriolet de régie, on passe du cabriolet de régie au cabriolet Milord, on s'élance du cabriolet Milord dans le Wurtsch, du Wurtsch dans la calèche et de la calèche dans le tandem, du tandem dans le Tilbury, du Tilbury dans le Briska. Toute locomotive est bonne. Seulement, plus elle est rapide, plus elle est appréciée. On voudrait appliquer la vapeur à la chaise sur laquelle de temps en temps on s'assied. On regrette le tapis magique des mille et une nuits, le manteau voyageur du diable boiteux, le cheval infernal de Faust et le balai fantastique des sorcières de Macbeth. On avalerait de l'air inflammable si l'on était sûr de partir comme un ballon. Il n'y a dans ce mouvement universel que le fiacre patriarcal qui ait conservé le droit d'aller encore de temps en temps, à l'heure et au pas. Pourquoi la Lorette, qui ne respecte rien, a-t-elle respecté cette allure? C'est un des mystères génésiaques de cette époque de folie. Un mathématicien, que le mouvement perpétuel avait frappé comme nous, a calculé, en procédant du connu à l'inconnu, que la moyenne des danses et galops que pouvait danser une Lorette pendant ces 2 mois de carnaval devait se monter à 1222. Ce qui, sur 1440 heures dont se composent ces 2 mois, présente, en supposant que chaque galop ou contredanse dure une demi-heure, un total de 611 heures employées, comme le dit Gavarni, à désobliger le gouvernement. Maintenant, comment un petit corps si souple, si coquet, si fragile en apparence, peut-il supporter une fatigue de 611 heures sur 1440, sans compter les fatigues qui précèdent les balles et surtout celles qui les suivent? Voilà ce qu'aucun mathématicien ne peut résoudre. Le bal de la mi-carême passé, la Lorette se calme et rentre peu à peu dans le cercle de sa vie ordinaire. La Lorette s'occupe peu de politique. En général, elle ne connaît du gouvernement que les sergents de ville qui veillent aux portes de l'opéra. Et la Lorette est si gentille, si gracieuse, si peu offensive, que le sergent de ville prend sur soi de lui passer bien des petits mouvements, bien des gestes coquets, bien des paroles décolletées qui ne sont point dans l'ordonnance. Maintenant que nous avons saisi la Lorette à sa naissance, que nous l'avons suivie dans son éducation, examinée dans ses mœurs, comprise dans ses peines, dans ses plaisirs et dans ses opinions, nous voudrions pouvoir clore cet article en disant ce que devient la Lorette dans sa vieillesse. Mais c'est là un de ces secrets qu'un avenir assez éloigné nous révélera seul. La Lorette compte 10 ans d'existence et 3 ans de baptême. La Lorette est née d'hier. La Lorette est de l'âge des roses, de l'âge des papillons, de l'âge des hirondelles. La Lorette est jeune, vive, pimpante. La Lorette a encore la moitié de son printemps, tout son été et tout son automne à parcourir, à vivre, à épuiser, avant d'arriver à son hiver. Ne songeons donc pas pour elle à un hiver auquel elle ne songe pas elle-même. N'assombrissons pas son bel horizon doré et remettons son sort aux mains du temps, ce rude et inflexible créancier qui viendra au jour lui réclamer sa dette et contre lequel M. Lerat de Magnito ne pourra plus lui accorder de délai. En attendant, elle use de sa devise « facile à prendre, impossible à garder ».
Madame Arthur, c'est une femme qui parlait d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour, Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.